matinale sur Radion.
Tout juste en 11h05 sur Radion. J'espère que vous vous portez tous en bonne santé après ces 3 jours de repos. Ce week-end de Pentecôte qui a été très très long, même sur les routes, on a rencontré des bouchons. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir au sein des studios de Radion Amina. Bonjour.
Bonjour Léon.
Amina, on va parler de coach, d'entreprise, on va parler de bien-être également.
Oui, avec plaisir.
Est-ce que tu peux te présenter?
Je m'appelle Amina Kanji, j'ai 48 ans, je crois.
Oui.
Et j'exerce plusieurs métiers, le métier de coach professionnel et personnel, c'est-à-dire que j'accompagne aussi bien des individus, des personnes individuelles particulières, que des collaborateurs, managers ou dirigeants d'entreprise. Et j'exerce également le mentorat, c'est-à-dire que j'accompagne, là la plupart de mes clients ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle.
D'accord.
Dans le domaine du bien-être et qui ont besoin de communiquer leur métier, de se positionner au niveau de leur cible, de leurs tarifs, etc. Donc je prodigue un accompagnement.
Reconversion professionnelle, ça veut dire suite à quoi? Suite à un changement de position professionnelle ou suite à un accident ou...
Oh, c'est assez variable. Là, par rapport aux personnes que j'accompagne, ce sont souvent des désirs de changement aux alentours de la cinquantaine. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de vivre entre quatre murs dans une grande ville, par exemple. Ou alors les métiers à responsabilité, être salarié, ça les gonfle à un moment. Il y a une saturation et ils ont plutôt envie, justement, de s'offrir du bien-être à eux, à eux-mêmes, pour commencer, et bien entendu, d'offrir du bien-être aux autres personnes.
Amina, c'est quoi le bien-être?
Le bien-être, ça serait ma définition, bien entendu, ça serait de trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et l'équilibre aussi entre le corps, l'esprit, et disons... Que ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense soit vraiment aligné et que ça transpire.
C'est compliqué à réaliser cette action.
Ce n'est pas simple, c'est vrai, mais à partir du moment où on le souhaite, je pense qu'on peut toucher du doigt le bien-être.
Est-ce qu'il faut être déjà dans son bien-être personnel pour pouvoir avoir un bien-être extérieur?
C'est préférable. Vous savez, un peu comme cette image très probable que vous avez dû entendre, vous et les auditeurs, dans l'avion, on vous explique au moment du décollage que s'il devait y avoir des turbulences, d'abord on porte son propre masque à oxygène pour pouvoir aider ses voisins. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si je suis bien, si je prends soin de moi et si je connais mes limites, là, je serai en mesure de pouvoir aider les autres, prendre soin des autres.
Comment tu es arrivé à être coach?
Alors, là, les auditeurs, j'ai envie de leur dire, là, il y a un énorme sourire sur mon visage, parce que depuis que je suis enfant, je suis la personne à qui on raconte tout.
Ah.
Mais alors, tout. De chez tout, vraiment.
Confidente.
La grande confidente. Par exemple, je prends le train, je prends l'avion, mon voisin de train et mon voisin d'avion, eh bien, je finis par le connaître.
Mais est-ce que c'est toi qui engages la conversation ou c'est lui qui engage la conversation?
En général, j'engage la conversation parce que je suis assez sociable et que j'aime bien les gens et j'adore découvrir les vies. J'aime ça. J'ai, pendant toute mon adolescence, cette période très difficile, très tortueuse de l'esprit, j'ai passé beaucoup de temps à lire des biographies, voire des autobiographies, pour comprendre justement comment les gens fonctionnent. Donc, à ta question, comment je suis devenue coach, évidemment, il y a une multidirection. La première, c'est que je pense que j'ai une capacité d'écoute et de me mettre à la place de l'autre qui est assez naturelle. Et la deuxième, c'est que les gens m'intéressent foncièrement, vraiment. Leur vie, le pourquoi ils en sont arrivés là, etc. Donc ça, premier élément de réponse.
On écoute un peu de musique et on revient juste après. A tout à l'heure, Amina.
Electro, pop, Radion. Radion. La matinale sur Radion.
Tout juste 11h19 minutes sur Radion. Je vous rappelle que vous pouvez aller nous rendre visite sur le site Facebook de Radion, c'est Radion officiel, pour nous laisser un petit like, il n'y a pas de problème, et également aller faire une petite visite du côté de radion.fr. Vous verrez, il apparaîtra certaines cases où vous pourrez même gagner de l'eau important, comme un exemple des entrées pour le Futuroscope. Dans l'instant, je suis avec Amina au micro de Radion. Amina, il paraîtrait que tu as des mots chouchous.
Ah, j'ai des mots chouchous, mais carrément. Quand j'interviens en formation, eh bien, j'aime bien annoncer qu'il y a des mots en fait qui ont changé ma vie, qui m'ont permis de voir le monde différemment. Et ce sont des mots que j'emploie, mais c'est très important pour moi de les partager, et surtout qu'on soit raccord sur la définition.
Et de bien les comprendre.
Absolument, tout à fait. L'un de mes mots chouchous, c'est paradigme, qui commence à être un mot à la mode, mais j'en parle depuis des années. Et le paradigme, c'est la manière dont on voit le monde.
D'accord.
Ce sont les lunettes que tu chausses pour voir le monde. Donc quelque part, ça peut être le prisme avec lequel tu vis. De base, de fait, un homme et une femme n'ont pas le même paradigme, parce qu'ils n'ont pas le même corps, parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons de fonctionner. Et encore plus, par exemple, un enfant adopté ou un enfant désiré n'a pas le même paradigme, et ainsi de suite. Voilà. Le paradigme, c'est vraiment... Donc, le paradigme d'un point de vue social, parce que la définition du paradigme d'un point de vue scientifique est encore différente. Mais le paradigme d'un point de vue psychosocial, ce sont les lunettes que tu chausses pour voir le monde.
Ce monde, tu le vois par rapport à ta manière ou par rapport à ce que les lunettes veulent te faire voir ?
Par rapport à qui tu es, comment tu as grandi, quelles ont été tes blessures. On peut avoir deux individus qui auront subi le même événement et l'un, ça glisse, et l'autre, ça devient une blessure. Voilà. On peut, par exemple, deux jeunes filles exactement du même âge qui reçoivent une remontrance parce qu'il y a une mèche rebelle. L'une d'elles, eh bien, ok, il y a une mèche rebelle, elle avance sa vie. Et l'autre, elle peut se dire, ah mais mince, qu'est-ce que c'est ma mèche rebelle et pourquoi est-ce que l'on m'embête avec ma mèche rebelle, etc. Voilà, donc plus tard, ça deviendra des personnes différentes en fonction des émotions qu'elles auront eues par rapport à tel ou tel événement.
Mais aucun être n'est identique.
Absolument, tout à fait. On est tous très 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 différents. Au-delà de différents, j'ajouterais plutôt singulier. C'est-à-dire que c'est vraiment notre singularité, donc ce qui nous est propre, qui caractérise justement nos paradigmes. Et donc les relations humaines, là nous sommes deux dans ce studio, et bien ça fait que nous avons deux paradigmes différents. Et l'idée, c'est de savoir que j'ai mon paradigme, que tu as le tien, et de faire en sorte que ça puisse quand même comment dire,
S'accorder,
merci, qu'on puisse quand même communiquer malgré nos différences de paradigme.
Est-ce que, par rapport à ça, il ne faut pas l'oublier, on a aussi le formatage éducatif des parents.
Oui, tout à fait. Ce que j'appelle aussi le conditionnement, c'est-à-dire que oui, si on a reçu une éducation plutôt autoritaire ou plutôt à la cool, etc. Absolument.
Et ça, est-ce qu'on peut s'en séparer à un moment de la vie ?
Alors, l'idée, c'est pas forcément de s'en séparer comme ça, mais quand ça nous pèse, bien entendu, c'est mieux quand même de s'en séparer. Si on a grandi dans une forme de rigidité, moi, j'ai grandi, j'ai reçu une éducation extrêmement rigide, très, très, très autoritaire, et j'ai rencontré un compagnon qui m'a aidé à prendre conscience de certains points de rigidité, et je le remercie. Et là, justement, j'ai opéré la séparation que tu évoques, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que ce que j'étais dans ce côté rigide n'était pas que moi, mais ça venait justement de ce que m'avaient transmis mes parents. Eh bien, j'ai choisi de retirer certaines couches de cette rigidité pour me lâcher la grappe et vivre un peu plus sereine.
Mais pour ça, il te faut quand même un pilier, un mentor, hein, toujours à côté de toi.
C'est préférable. Soit des mentors type, moi par exemple, quand j'étais ado, et même encore aujourd'hui, des exemples de Martin Luther King ou Gandhi m'aident beaucoup. Soit si on a vraiment envie de travailler de manière un peu approfondie et de se dire, oula, si je... Si je vacille, voilà, sur qui je peux m'appuyer. Là, effectivement, c'est mieux quand même de faire appel à un coach pour pouvoir avancer avec justement ces petites béquilles éventuellement.
Amélie, on fait une petite pause musicale.
Avec
on se retrouve dans un petit moment sur Radion.
Radion, les meilleures nouveautés pop, les meilleures nouveautés pop au cœur de la Bourgogne. Radion. La matinale sur Radion.
Juste 11h34 sur Radion, et toujours Amina avec moi pour parler de coach. Amina, tu es mentor, tu es coach des coachs.
Oui.
Ça fait beaucoup tout ça.
Ça fait beaucoup. Il y a quand même un fil d'Ariane en commun. C'est le coaching, c'est l'accompagnement. Et coach de coach, je me suis autorisée de l'officialiser parce que ça fait quelques années que régulièrement des coachs viennent me voir pour de la supervision, parfois quelques minutes, parfois une demi-heure ou plus. Parce qu'il se passe une chose dans notre vie et sur cette terre, c'est que à partir du moment où on porte une étiquette, celle de coach tout simplement, eh bien la vision extérieure, le monde extérieur estime qu'on est 100% parfait, qu'on va super bien et que toi t'es coach, tu souris, la vie est belle. Alors que non, on porte la casquette de coach à un instant T, mais moi une fois que les clients sont partis, je suis maman, épouse, enfin voilà, j'ai plusieurs vies et pas que celle de coach. Et les coachs qui viennent me voir viennent de manière assez discrète en disant écoute, est-ce que tu veux bien juste m'aider, à dénouer cette toute petite chose, c'est pas... Je coince un petit peu avec tel client par rapport à tel objectif. Et je me suis aperçue qu'il y avait quand même un vrai besoin d'être accompagnée. Et que moi-même, quand je rencontre des difficultés, eh bien, j'ai un ami coach que je sollicite de temps en temps pour me débloquer un truc. On n'est pas parfait, on n'a pas une vision supersonique surtout. Et donc, c'est pour cela que là, j'ai officialisé et j'accompagne maintenant des coachs. Je ne coach pas des coachs en direct, mais je pratique ce qu'on appelle de la supervision.
Quelle est la différence entre un mentor et un coach ?
Un coach, dans ma définition des choses, un coach accompagne sans donner de conseils, mais accompagne avec une vision élargie et de tous ses outils qu'il connaît, les outils psychologiques, les outils qu'il a appris à l'école, etc., pour aider le coaché à trouver sa direction, sa voie, son équilibre. Le mentor, lui, il va toujours accompagner, mais cette fois-ci, le mentor est autorisé à donner des conseils. Et on va venir voir un mentor surtout par rapport à son expérience de vie professionnelle. J'ai créé ma première SARL à l'âge de 19 ans. Donc autant vous dire que dans le monde professionnel et entrepreneurial, je connais un petit peu des choses. Eh bien, justement, mes mentorés viennent me voir parce qu'ils savent que j'ai de l'expérience et que je me suis plantée, parfois, mais ramassée. Et en même temps, j'ai aussi quelques petits moments de soleil, de fleurissement dans la vie. Et que à la lueur de toutes mes expériences vécues et également des expériences des autres personnes que j'accompagnais, je suis en mesure d'aider et de...
Conseiller.
De conseiller, merci Léon, les personnes dans le cadre du mentorat. Donc j'espère que je suis bien claire par rapport à cette différence.
Est-ce que tu te sens plus professeur ou guide ?
Plutôt guide. Enfin, dans le mentorat, plutôt guide. Dans le coaching, plutôt à côté.
Pourquoi ?
Parce que c'est très important de prendre de la distance par rapport à ses coachés, même si, évidemment, humainement, on s'y attache et qu'on les aime beaucoup, etc.
C'est-à-dire qu'un coach qui vient te voir pour se faire coacher est obligé quand même de se révéler.
Ah oui, il va se révéler. Donc, il y a une forme de guidance, c'est juste. Là, je suis en train d'y réfléchir. Mais quand je coach, je me mets en retrait. C'est-à-dire que...
À l'écoute.
Voilà, je... C'est pas que je n'existe pas, mais... Je fais en sorte d'écouter de manière la plus objective et de ressentir dans presque toutes mes fibres ce que l'autre veut me dire. Et je mets, mon ego est très 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 loin derrière en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport au fait que ce n'est pas de la guidance, c'est juste écouter, ne pas restituer, mais à la lumière de ce que le coaché me donne comme élément d'information, l'aider à trouver sa voie, l'aider à se repositionner par lui-même en fait.
Est-ce que tu te libères de cette activité de coach lorsqu'un autre coach vient pour te libérer et mieux appréhender ce qu'il veut te dire?
Alors, si j'ai bien compris ta question, je vais la reformuler. Donc, je coach un coach, le coach numéro 1. Et puis...
Tu laisses de côté.
Oui. Ah oui, exact. Donc,
pour pouvoir mieux écouter, en fin de compte, tu reviens en toi-même pour mieux écouter, parce que tu ne peux pas... Un coach ne peut pas coacher un autre coach, si je me comprends bien, puisqu'en fin de compte, on risque d'avoir un conflit. Donc, pour éviter ce conflit, il faut s'élargir du métier de coach pour pouvoir conseiller l'autre par l'écoute que l'on reçoit.
C'est exact. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pratiquais la supervision de coach. De temps en temps, je peux donner quelques éléments de coaching, mais je ne signe pas de contrat de coaching avec un coach. Je signe un contrat de supervision. Ça, c'est vraiment très, très important.
Conseiller plutôt que coaching.
Tout à fait. Absolument. Oui. Et si je supervise deux coachs l'un après l'autre, évidemment, j'efface, j'efface toutes les données de l'ancien coach, du précédent coach, du moins, pour pouvoir à nouveau être pleinement et entièrement au service du coach suivant.
Au niveau des entreprises, tu l'as dit aussi, tu coaches certaines personnes qui veulent se convertir par rapport à leur situation professionnelle.
Oui.
Là aussi, comment tu gères la situation ?
Il y a toujours ce que j'appelle un rendez-vous zéro. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous qui peut durer une heure, qui n'est pas une séance de travail à proprement parler, mais c'est la prise de contact. C'est-à-dire que je vais écouter le besoin de cette personne qui vient pour le mentorat, en l'occurrence. Je vais écouter son besoin, je vais lui poser quelques questions pour savoir comment lui il se situe, comment il vibre par rapport à son futur métier, par exemple de praticien du bien-être. Et je lui demanderai surtout qu'est-ce qu'il attend de moi. Et si je ressens que ces attentes, je peux apporter des éléments de réponse, si j'estime que nous avons tous les deux la légitimité à travailler ensemble et qu'on peut aboutir et répondre à son objectif, en général, là, je propose une séance une de travail.
Est-ce que tu es capable de gommer des erreurs par rapport à la personne qui vient te voir?
Je n'ai jamais commis d'erreur en tant que telle. En revanche, je sais une chose, c'est que je me remets en question. Donc, il peut arriver, par exemple, à la séance 6 avec un coaché, et que moi je me dise, bon, en général, en séance 6, par rapport à tel ou tel profil, on en serait rendu là. Et puis je sens que le coaché bloque encore un petit peu. À la fin de la séance, là, je peux me remettre en question en me disant, mais qu'est-ce que t'as fichu? et là, c'est une histoire d'ego, encore une fois. Parce que, en général, à la séance 7, ou alors, entre la séance 6 et 7, et ben, je peux recevoir un coup de fil, et là, il y a un déblocage chez le coaché. Donc, d'erreur, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Le suivi, après? Il y a un suivi qui se fait?
Alors,
Une fois le projet atteint?
Je ne fonctionne pas en termes de suivi. En revanche, quand j'accompagne des personnes, entre chaque séance, si et seulement si la personne se sent dans un inconfort ou en danger, elle m'appelle. J'insiste sur le si et seulement si, parce que justement, si tous les coachés devaient m'appeler toutes les 5 minutes, ça va être un peu compliqué. Mais en revanche, j'assure quand même, j'aime pas dire un service après-vente, mais je suis présente, je suis là. Je ne veux pas les laisser dans la mouise s'il y a quelque chose justement de très inconfortable qui leur arrive. En revanche, quand l'objectif est atteint, il n'y a pas de suivi parce qu'ils volent de leurs propres ailes. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un début et une fin. c'est très très important qu'ils soient hyper autonomes en fait. Pour après, ils peuvent me rappeler parce que ça, leur vie va très bien, mais qu'à un moment, hop, il y a un nouvel objectif ou un changement de vie, des petites questions nouvelles qui apparaissent. Là, on peut se revoir une ou deux fois. En général, on dépasse pas de séance dans ces cas-là.
Eh bien, nous, on se revoit dans un petit moment puisqu'on part sur une pause musicale sur Radion.
La matinale sur Radion.
Ah, que le temps passe vite. Je suis bien chanté, moi, jusqu'à maintenant. C'est bon, hein. Toujours Amina avec moi. Je croyais que tu étais partie, non?
Ah, je suis là.
Alors, Amina, j'ai appris que tu faisais des interventions chez nos collègues de France Bleu.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu leur apportes? Le bien-être?
On parle méditation, coaching et bien-être, effectivement. À chaque intervention, il y a une thématique qui est abordée. Et la dernière fois, on a abordé l'art du silence, de bien utiliser le silence, à quoi il sert. Et ma prochaine intervention, eh bien, elle touchera la liberté.
Ah.
Cette notion qui est précieuse.
Mais c'est quoi la liberté? À un moment, on ne sait plus ce que c'est que la liberté.
Oh, il peut y avoir différentes définitions, mais...
Liberté de soi-même ou liberté...
Liberté d'être.
D'être
soi, et justement de ne pas se déguiser, de ne pas porter de masque. La liberté de dire non quand on a envie de dire non.
Ouais.
Et de ne pas justement dire oui et puis à un moment exploser ou imploser surtout. La liberté
c'est
de...
C'est éliminer la soumission, j'allais dire.
Oui, c'est ça, oui. S'affirmer.
S'affirmer.
Oui. Considérer qu'on existe pleinement.
On est maître de nous-mêmes.
Absolument, oui.
Tu l'as dit, tu as parlé du silence.
Oui.
On ne doit plus rien dire?
Non, c'est que surtout... Tu connais l'adage, tourner sept fois sa langue avant de parler. C'est un peu ça, le silence. Hein, parce que parfois, il vaut mieux garder silence plutôt que de répondre à un truc qui va partir en escalade.
Ça, on peut le dire à certains politiques.
Je ne suis pas encore coach de politicien. Je ne suis même pas sûre que j'ai envie d'être coach d'homme politique.
Tu as un pouvoir dans ton programme, c'est savoir gérer des conflits.
Oui.
C'est compliqué à gérer des conflits quand même.
Très compliqué quand on n'a que des têtes de mule en face de soi et que soi-même on est une tête de mule. Bien sûr, ça devient compliqué. L'idée pour moi, c'est pas forcément de passer du compliqué au simple, mais une excellente formation en gestion des conflits, elle dure 5 jours. Il y a encore 15 ans, quand j'intervenais sur la gestion des conflits, c'était 5 jours de formation.
Mmh.
Aujourd'hui, évidemment, en 2023, où tout va très vite, c'est 2 jours et éventuellement une journée de consolidation quelques mois après. Mais la gestion des conflits passe par l'anticipation des conflits. Et pour anticiper les conflits, le but du jeu, c'est de savoir observer ce qui nous entoure, observer ce qui ne va pas, et observer aussi soi-même, s'auto-observer.
Ça veut dire, avant de trouver des solutions, il vaut mieux ne pas créer les problèmes.
Absolument. Il vaut mieux tourner cette fois sa langue, à nouveau, on en revient à la notion du silence, mais surtout... observer moi par exemple, comment je réagis à tel ou tel stimulus. Est-ce que j'ai besoin de réagir à tel ou tel stimulus? Est-ce que je suis obligée d'apporter une réponse à telle personne qui m'a dit une chose qui m'a vexée? Voilà, par exemple, à méditer.
Oui, mais est-ce que c'est pas se rabaisser aussi par rapport à l'autre?
Non. Avant, je pensais comme toi, Léon. Avant, quand je devais faire silence, je me disais, oh, je fais silence, il a encore gagné un point. Eh bien, aujourd'hui, quand je fais silence, il n'y a personne qui gagne 2 points. Mais moi, je suis plus en paix parce que je ne vais pas dans l'escalade.
Tu ne vas pas dans l'escalade du conflit.
Absolument. Parce que je gagne plutôt en sagesse.
Sur ton site internet, une affirmation. Savez-vous que nous recevons environ 7 remarques négatives par jour?
C'est incroyable, hein?
C'est incroyable.
Incroyable. Est-ce que tu veux des exemples?
Oui, bien sûr.
Eh bien, les remarques négatives... on va prendre un personnage imaginaire que je vais appeler Jeannette. Jeannette, elle va se lever le matin. Elle va déjà se faire une propre remarque négative en se regardant dans le miroir en disant « j'ai une sale gueule ».
Ah mais ça, je le fais tout le matin, moi.
Eh ben non, Léon. Non. Parce que c'est une remarque négative qu'on se balance à soi-même. C'est super pour commencer la journée, tu imagines. Puis ensuite, elle va arriver un petit peu en retard et puis son mari va dire « Ah bah t'as pas fait le café encore ?» Ça reste une remarque négative. Sous-entendu, merci, mais j'aurais bien aimé avoir mon café. Une forme de reproche. Ça en fait déjà deux au bout d'une demi-heure. Et ainsi de suite. En fait, nous sommes dans le monde occidental biberonnés aux remarques négatives. C'est-à-dire... on ne s'en rend pas compte. On crée nos propres auto-remarques négatives entre soi et soi.
On serait dans un monde négatif alors.
Négativisant.
Oui. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que on va toujours vers le négatif. Oui, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait cela.
Voilà, on a tendance à critiquer. Oh, regarde cette robe, comment ouais, elle est décolletée. Au lieu de dire, elle est jolie ta robe. Et à tel point que moi, quand je donne des compliments qui sont évidemment sincères, mais une fois sur deux, les personnes ont un mouvement de recul, un espèce de choc en disant, mais qu'est-ce qu'elle attend de moi? Elle va me demander 1000 balles là dans 2 minutes. On en est là. Et c'est une remarque négative aussi de se dire, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Oui. Elle va encore me demander 1000 balles, par exemple.
Mais est-ce qu'il vaut mieux être donc tout le temps positif?
Non, il n'y a pas d'injonction. Voilà. L'idée, c'est pas d'obliger les gens à être tout le temps positifs, mais d'équilibrer. C'est-à-dire que si on a 7 remarques négatives et puis éventuellement 3 remarques positives, eh bien, ça va changer la coloration de notre esprit, de nos pensées. Et de ce fait aussi de ce que l'on va dégager, tout simplement. On aura donc plus tendance à faire la gueule qu'à sourire. Donc, je n'oblige pas les gens à afficher un sourire. Seulement, juste tenter d'équilibrer, c'est-à-dire que de dire quand les choses nous gonflent, mais aussi d'exprimer quand les choses nous plaisent.
Au niveau de l'environnement, est-ce que ça joue un rôle? Aujourd'hui, il fait beau, on peut sourire. Demain, il pleut.
C'est vrai que la météo, elle...
Demain, il pleut, on aura...
La plupart des gens, oui, se laissent influencer par la météo, c'est vrai. Moi, je ne me laisse pas influencer par la météo, par exemple.
Toujours le sourire.
J'essaye, oui. Parfois, je ne souris pas, mais le faire la gueule, non. Je ne sais pas faire.
Un autre mot qui me tient à cœur envers toi, Amina, c'est la gratitude.
Oui, ouais, ouais.
La gratitude, c'est quoi?
Ben, la gratitude, c'est c'est le pendant du « Oh, t'as une sale tronche aujourd'hui ».
Ah, d'accord.
J'aime bien parce que là, tu as trouvé deux exemples qui sont très équilibrants. La gratitude, c'est « Bon, j'ai quand même 2-3 rides. Franchement, c'est vrai que j'ai pas une jolie mine, mais je me suis réveillée. Mais je suis en bonne santé. » Et je vais passer une très bonne journée parce que j'ai un super rendez-vous chez Radion ce matin, par exemple. La gratitude, c'est rajouter ces petites doses de... ces petits merci de la vie. Ces petits merci de... ben voilà, ma voiture a pu m'emmener jusqu'ici et je suis dans ce studio et je passe un très bon moment. C'est de la gratitude.
Dans le mot gratitude, il n'y aurait pas le mot grâce? Laisser?
Oui, peut-être. C'est vrai, c'est très joli de savoir observer ce... rendre grâce à...
Amina, on peut rappeler, tu es coach.
Oui.
Mentor.
Absolument.
Et coach des coachs. C'est-à-dire, les personnes qui ont des problèmes, n'hésite pas à venir vers toi.
Ah oui.
Surtout s'ils ont un problème professionnel.
Tant au niveau professionnel que personnel. En tout cas, il y aura toujours une première séance de prise de contact pour valider. C'est très important. C'est-à-dire que je ne vends pas du miracle. Je n'ai pas de baguette magique en coaching. L'autre travaille, évidemment. Le coaché travaille, le mentoré travaille. Et... au moins une première séance, effectivement, juste pour faire connaissance et puis s'assurer aussi que je pourrais apporter les éléments et surtout que l'autre, que le futur coaché éventuellement, ait envie de travailler avec moi. Parce que si au bout d'une demi-heure, il se dit non, mais elle me dérange, eh bien, il a aussi la liberté de dire ben non, Amina, on va travailler ensemble et c'est OK.
Ça t'arrive quelquefois de refuser de coacher?
Oui, une fois. Non, il y a une chose que je dis régulièrement, c'est que l'addiction, par exemple, c'est un sujet auquel je ne touche pas. Là, je pense que ça relève vraiment de la psychologie.
Oui,
et là, il y a des personnes formées pour ça, et il vaut mieux... Enfin, je n'ai pas de prétention sur des domaines sur lesquels je ne sais pas faire. Je sais faire ou je ne sais pas faire. Donc l'addiction, par exemple, c'est un domaine que je ne touche pas. Je pourrais accompagner à côté, mais en parallèle, de m'assurer aussi qu'il y a un suivi psychologique, par exemple.
Au niveau des séances, ça dure combien de temps, une séance?
Une séance dure une heure et quart. Après, en fonction des coachés, des problématiques, ça peut dépasser. Mais dans ce cas, je pose aussi le cadre. Et puis, j'ai des coachés aussi parfois très bavards qui ont vraiment besoin de me raconter plein de choses. Là, pareil, on pose aussi le cadre.
Au niveau des étudiants, est-ce que tu peux leur porter aide?
Oui, les jeunes, les étudiants. Il y a une personne, ma première ado que j'ai accompagnée, qui avait 16 ans, qui était vraiment en grande difficulté. On avait posé un objectif sur une année, un accompagnement de l'ordre de une fois par mois au début et puis ensuite tous les deux mois. Mmh. Et bien elle a atteint son objectif au bout de 10 mois et elle était très fière de me dire au bout de 10 mois, au revoir Amina.
Alors Amina, on te retrouve sur France Bleu, tu peux rappeler l'heure, le jour de diffusion?
Alors là je n'ai pas d'heure et de jour de diffusion parce que c'est en fonction de l'agenda de la vie en bleu, voilà, de la programmation. Mais en juin, je sais que je vais intervenir à 9h30, très bientôt, sur
d'accord,
le thème de la liberté.
Et surtout, n'hésitez pas. Et naturellement, tu as, comme toute personne qui se respecte, un site internet.
Un site internet qui s'appelle vivelaliberté.fr. J'adore le nom de mon site web. Et je suis aussi joignable sur LinkedIn,
d'accord.
Amina Kanji, K-A-N-D-J-Y.
T'as un compte Facebook, non?
J'ai un compte Facebook, mais qui est un compte... Ce n'est pas une page, en fait.
D'accord.
C'est un compte mi-pro, mi-perso. Donc j'ai une préférence quand même avec LinkedIn.
Sur le site internet, on peut s'inscrire, on peut...
Absolument, on peut me contacter via la page de contact. Je reçois les emails et puis je suis réactive.
Très bien, Amina. Bien, merci d'avoir participé à cette interview.
Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
Et au plaisir de te revoir très bientôt. Dans l'instant, c'est les infos nationales et internationales sur Radion. Bye bye, à demain.
Radion. Le top de la pop.